Vaquero Polinas de mai, que a tu galán plantó su mai, me plantará la mami. Será mai out que salte el liso.
L'Occitanie contemporaine. Une émission sur la persistance de la culture occitane, aujourd'hui à Marseille. Dirigée par le chanteur Manu Théron, la Compagnie du Lamparo œuvre pour la création et la transmission du patrimoine sonore occitan. Cette compagnie musicale développe différentes formes de création, le corps de la plana, chinnanapun, trobanova, mais aussi du collectage. Imaginé au départ comme une activité plutôt annexe, ce collectage est devenu la pierre angulaire du travail de l'association sur la redécouverte et la rediffusion du patrimoine occitan. De 2004 à 2007, pour la compagnie, Cécile Février, ethnologue de formation, a mené des enquêtes orales sur le territoire marseillais de toutes les formes de savoir liées à l'oralité occitane. Des témoignages qui constituent aujourd'hui une matière exploitable par les chanteurs du corps de la plana ou par d'autres artistes. Manu Théron nous parle de ce travail de collectage.
À l'intérieur de ce dispositif, j'ai demandé à Cécile, comme travail annexe au départ, d'effectuer des recherches sur ce qui pouvait rester comme subsistance et comme persistance de la culture chantée occitane à l'intérieur, on va dire, du patrimoine chanté des Marseillais.
Donc au départ, c'était plutôt axé sur les chansons, vraiment.
C'était axé sur le chant, sur l'univers musical. Donc ça pouvait interroger aussi les gens qui ont fait partie d'orchestres, etc., les gens qui ont fait partie de fanfares, concernant surtout les musiques populaires. C'était pas vraiment dirigé vers les musiques savantes. Or, et on va le voir plus tard, la plupart des musiciens de musique savante aussi à Marseille étaient aussi musiciens dans des orchestres de musique populaire. C'est-à-dire qu'ils pouvaient faire autant du Wagner l'après-midi que de l'opérette marseillaise le soir. Il y avait comme ça une interpénétration très facile et très très peu d'hermétisme entre le milieu des musiques savantes et celui des musiques populaires, chose qui s'est un peu perdue depuis et qui pourrait peut-être nous donner des pistes un peu sur une façon de se reparler entre divers milieux musicaux. Alors, dans le travail de Cécile, ce qui était intéressant, c'est que partant de cette mission que je lui avais confiée, elle s'est heurtée à énormément de difficultés parce qu'elle n'a pas trouvé réellement ça. Elle a trouvé des personnalités très intéressantes qui avaient quelques chansonnettes ou quelques bribes, certaines qui avaient des chansons entières mais qui étaient bien trop vieilles pour pouvoir nous les livrer, et un qui est centenaire, enfin bon, voilà, des gens qui ne peuvent plus chanter, qui ne peuvent plus démontrer un art ou une pratique réellement, puisqu'il nous en resterait, on va dire, que des lambeaux, et nous ce qu'on veut vraiment c'est tomber sur ce qui est encore vif. Et on ne veut surtout pas exhumer. Ce n'est pas notre devoir que d'aller creuser dans les tombes et d'aller chercher dans des endroits où tout ce qui nous intéresse est enseveli. Nous, ce qu'on veut voir, c'est ce qui donc subsiste et persiste. Et en rentrant là-dedans, elle s'est rendue compte qu'elle n'arrivait pas à trouver des persistances tangibles. Et donc, elle est allée interroger beaucoup plus loin. Elle est allée interroger sur les sons et les bruits qui entourait, encadrait ces personnes, sans parler de musique, parce que quand on parle de musique, on parle, et de chant, on parle beaucoup de pudeur, et donc c'est très difficile de demander à des gens de se livrer là-dessus. Alors on a vraiment été très intéressé par ce qui s'est fait, par exemple, au niveau des bruits sur lesquels elle a interrogé la plupart de ses témoins, sur les bruits des rues. Et donc là, elle a pu élaborer l'ensemble d'un panel sonore de bruit qui peuplait les rues au travers des cris de métiers. Donc tous les métiers qui se faisaient dans la rue, rétameur, étameur, cordonnier, vendeur de brousse, vendeur de poissons, vendeur de légumes, vendeur de lait, etc. Enfin, il y a énormément de cris qui ont été répertoriés comme ça, et l'ensemble de ces cris effectivement peupler l'univers sonore des Marseillais jusqu'aux années où la voiture a pris le pas sur le bruit naturel des rues. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir que la voiture, on peut même dire, elle n'a pas pris le pas, elle a chassé le pas, elle a chassé chassait la vie au pas, elle, et quand la vie au rythme de la voiture s'est installée, effectivement, toute cette activité qui se faisait à pied et qui se faisait au rythme du pas a été complètement chassée des rues marseillaises.
L'autre jour, le cousin Toto m'a dugué per Amoula. Une rode des barriotes est mieux vieille per autre cas.
Enfin, dans le collectage, c'est dur aussi en fait, d'expliquer aux gens qu'on ne recherche pas une histoire officielle.
Cécile Février.
Donc, je ne recherchais pas l'histoire de Marseille en 1953, ce qui s'est passé, mais plutôt vraiment un quotidien intime, en fait, finalement, et dans, par exemple, en demandant de parler des métiers dans les rues, et après, je leur demandais si les gens criaient dans les rues, donc les gens, en fait, là, ils revivaient vraiment les scènes, alors ils se remettent à crier, alors ils chantent, enfin, crier, c'était des chants, hein, mais c'était les cris du vitrier, le cri de la vendeuse de limaçons, et du coup, petit à petit, ils comprenaient mieux ce que je voulais en... Donc plusieurs thèmes comme ça, avec à chaque fois je demandais les chansons, mais finalement ça dépendait vraiment de la personne que j'avais en face, parce que les pêcheurs, ben, c'était plutôt, je leur demandais plutôt de me parler de leur métier de pêche avant, qui était un métier qui venait de leur grand-père, de leur arrière-grand-père, enfin c'était tous des pêcheurs de père en fils, et je trouvais que c'était vachement intéressant qu'ils expliquent comment ils avaient appris ce métier, et comment ils avaient appris les repères, quelles relations ils avaient à leur barque, quelle tradition, quelle superstition, enfin c'était un peu, voilà. Mais c'est vrai que sur le terrain, enfin quand je partais quasiment tout le temps seule, quoi. Donc il y a des journées où je partais avec mon micro, mon enregistreur, je savais pas du tout ce que j'allais avoir, je traînais mes pas, tiens je vais aller au Vieux-Port aujourd'hui, ou tiens il y a un aïoli à Château-Gombert, je vais aller voir. Donc il y a eu des ratés, hein. j'ai raté mon coup, quoi. Je me faisais emporter par l'apéro, quoi. Mais bon... Mais en général, j'arrivais au fur et à mesure à prendre des contacts. Après c'est, il y a un côté pas comme à la radio où il y a pas de, on peut pas aller, on n'a pas une prise pour faire quelque chose, quoi. Enfin, il y a pas de temps. C'est-à-dire qu'il y a des gens que j'allais voir une fois et puis qui me rappelaient, parce que ça, c'est de la mémoire en fait, ça travaille, ça vit, quoi. Donc ils me rappelaient après en me disant mais j'ai pensé à quelque chose, il faudrait que tu reviennes. Donc il ou des gens qui passaient au local en me disant je me suis rappelé d'eux. Il y a un ancien de Notre-Dame du Mont, donc il habitait tout près lui. Et lui il avait carrément, enfin il y avait des choses vachement touchantes. Hein. Il y a des gens qui m'avaient fait des carnets, qui m'envoyaient des carnets par la poste. Après j'avais aussi des correspondances parce que par exemple dans la Provence je voyais des gens qui répondaient, qui avaient des choses intéressantes, enfin qui disaient des choses justement sur ma grand-mère était vendeuse de picons et tout, donc je leur écrivais, enfin je passais par des journaux et du coup en passant par je nouais des contacts. Alors il y en a qui n'ont jamais voulu me rencontrer mais qui m'écrivaient, il y en a un qui m'a envoyé un espèce de carnet de pensées, enfin j'avais aussi du coup de la documentation écrite à côté, enfin qui est toujours au Lamparon, hein, qui est consultable et donc, oui, cette personne-là, qui est un ancien très, comment dire, plutôt centon de Provence, quoi. Plutôt dans la tradition, il parle le provençal, mais il a dû le réapprendre. Et puis, il aime se déguiser en centon avec sa femme pour certaines occasions. Enfin, c'était pas du tout c'était pas vraiment ce que je cherchais, en fait. C'était très mistralien, très... Mais bon, et en fait, il est venu une première fois, il était très étonné de mon entretien, parce que justement, je lui posais des questions vraiment sur un quotidien intime, en fait. Bon, c'était pas l'intimité de... Enfin, c'était l'intimité entre guillemets, quoi, mais... Et du coup, il est repassé, je crois. Il repassait souvent, il repassait me voir, il repassait comme ça. Et un jour, il est passé, il avait noté sur tout un cahier, il m'avait noté une liste de mots... qu'il écrivait depuis, mais au moins 3-4 mois, et c'était que des mots en provençal, des expressions qui lui étaient revenues. Et il est venu, voilà, et il est revenu une fois qu'il avait fait il avait au moins rempli la moitié du carnet. Alors moi, je me suis fait un enregistrement, c'était pas guégué, quoi. J'étais en face de lui, j'avais posé le micro, et alors, Loudahu, alors Loudahu. Alors Loudahu, et il me récitait, en fait, le mot du... Et c'est, bon, après, cela dit, c'était super marrant ce qui s'est passé, quoi. Et il avait vraiment annoté tous les trucs, mais ça partait du limaçon, enfin tout, hein, ça allait vraiment de... À Marseille, il y avait une vente... Enfin, il y en a toujours, hein, d'ailleurs. Il y en a une sur le port que j'ai vue il n'y a pas longtemps. Et ils vendaient donc elle passait dans les rues. Alors maintenant, elle est posée, quoi, mais elle passait dans les rues. Elle avait des petits escargots dans une sauce. Donc elle criait « Laïgassao, les limassos, il y en a des grands et des pichons ». Voilà, alors ça, tous les gens, ils s'en rappellent vachement. Et ça fait vraiment partie du folklore, c'est-à-dire que dans les pastorales, la vendeuse de limaçons, elle est représentée...
« Alagassa, les limaçons, il y en a des gros et des pichons !»
On aurait fait ce travail de collectage en 1970 à Marseille. On aurait récolté vachement plus que maintenant, quoi, en fait. J'avais l'impression, en même temps, j'ai toujours eu l'impression d'arriver tard, quoi, sur les sujets.
Escuta ben l'histoire, escricho di Lusin, du brave Marciès, bandit de Sumitan. Qu'est-ce pas en sa glorie, est même intéressant, de l'envie est en caisse, canta de l'Occitan.
Manu Théron.
Il y a une dimension occitane à Marseille, dans beaucoup de villes du Midi, et cette dimension, elle n'est pas corroborée institutionnellement par une académie ou toute forme de on va dire de sanctions institutionnelles que tu pourras trouver. Non, elle vit indépendamment, de façon autonome, sa vie de culture populaire. Et c'est très important.
D'ailleurs, elle est aussi dans les pratiques, pas uniquement dans la langue.
Pas uniquement dans
la langue. La persistance de certaines pratiques.
La persistance d'énormément de pratiques, que ce soit dans la cuisine, dans les pratiques sociales, dans l'humour, dans les blagues, dans la pudeur, dans la façon de faire, de monter un commerce, dans la façon de ne pas monter un commerce aussi, dans la façon d'envisager la vie associative, dans la façon de se syndiquer, dans la façon de revendiquer. Dans toutes ces façons-là, en fait, effectivement, on remarque que certaines persistances sont réellement des persistances de la pratique culturelle occitane qui ne fait que se transmuter et au travers d'une autre langue qui est le français, continuer sa vie. Elle existe toujours, il n'y a rien de mort.
Voilà. À Septembre, il y a des anciens qui parlent provençal tout le temps, quoi. Enfin, c'est leur langue, quoi. Donc après, il reste quand même des gens. Bon, c'est sûr que c'est plus surprenant qu'il y a 50 ans, mais bon, il y a des gens, c'est vraiment leur langue. Ils parlent mal le français, on peut dire, enfin, entre guillemets, quoi. Ils traduisent l'occitan en français, quoi. Donc c'est... Aujourd'hui, c'est plus des jeunes, mais bon, il y a jeunes, moins. Enfin, ce qu'il y a, c'est que c'est des gens qui reprennent pas les traditions pile poil comme à l'époque. Ils essayent pas de. C'est pas un esprit.
Il y a un côté revendicatif, vraiment.
Voilà, il y a un côté
pour cette culture qui se différencie en sens-là de la tradition.
Voilà, il y a un côté revendicatif. Il y a effectivement un sentiment identitaire, enfin une identité. Là-dedans, mais il y a aussi du nouveau. Enfin, je veux dire, c'est il y a des groupes, voilà, ils sont pas obligés de. C'est pas qu'ils sont condamnés à chanter pour des Provençaux, quoi. Ils peuvent très bien, ou pour des Occitans, ils peuvent très bien les chanter aux États-Unis. Enfin, je veux dire, il y a pas. Ils arrivent à faire quelque chose de moderne, à s'en servir pour avancer, pour continuer d'avancer, quoi. Parce que il y a aussi toute une partie de. Enfin, c'est dangereux, hein, les langues minoritaires et tout, ça peut aussi être hyper revendicatif, mais bon, d'une manière presque fascisante, quoi. Enfin, ça peut aussi être c'est nous, les étrangers dehors. Enfin, avant c'était comme ça, justement, tous ces. Ah ben, c'était comme ça, ce sera plus jamais pareil, il faut que la tradition continue. Enfin, alors que moi, je pense qu'il faut quand même continuer de voir, regarder autour, on n'est plus dans les mêmes. Dans la même époque, donc il faut. Ça avance, c'est bien que ça avance, c'est bien que. Et c'est bien qu'on puisse tirer des leçons du passé, se servir du passé pour avancer aussi, quoi.
On n'a jamais eu, de posture nostalgique parce qu'on part pas on ne part pas du postulat que la musique provençale appartient à un passé idyllique. Voilà. On ne part pas de ce postulat. Et déjà que la musique provençale appartient au passé, c'est un prédicat que nous remettons complètement en question en permanence, parce que nous sommes arrivés, Loucor de la Plane, mais avant ça, Gatchampeg, on est arrivé dans la musique occitane avec aucune prétention de s'inscrire dans l'histoire musicale ou dans l'histoire d'une culture populaire, mais juste avec la prétention de se réapproprier un patrimoine en disant on a fait ça un peu comme des sauvages qui tomberaient sur après l'apocalypse sur un bout de terrain vague complètement défoncé par les bombes et par je sais pas, par des explosions nucléaires, et on aurait miraculeusement survécu, et au fond de ce terrain vague on ouvrirait un trésor et on découvrirait qu'en fait il y a 1000 ans de littérature, de patrimoine chanté, 1000 ans de un millénaire entier d'accumulation, on va dire, de témoignages culturels écrits, chantés, parlés, etc. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on thésaurise, c'est-à-dire est-ce qu'on le garde enterré dans un coin en faisant patiemment le catalogue, chose qui est une des activités principales des on va dire des acteurs que je connais moi de la culture occitane, ou est-ce qu'on le pille finalement? Et nous, c'est un peu le choix qu'on a fait, c'est de le piller, c'est-à-dire de rentrer dedans, et piller au sens italien du terme, c'est-à-dire de prendre. On prend, on s'attribue, on se réapproprie, on essaye, on regarde si ça nous va, si ça nous va pas, et on le remet si on n'en veut pas. Mais voilà, parce que on sent aussi que chez beaucoup de monde, la passion de cette Provence idyllique, de cette Provence un peu surannée et doucereuse, où tout allait bien, où tout était magnifique, ça n'a jamais existé. Et que c'est un peu aussi un mouvement vers une époque, vers une France où il n'y avait pas d'immigrés, vers une France où il n'y avait pas de population halogène, où il n'y avait pas de culture halogène. Donc, tu vois, c'est quelque chose pour nous qui est un peu... ça, par contre, pour nous, ça plus que nostalgique, c'est une posture qui est péténiste, on va dire.
Cécile Février.
Voilà, après moi, sur ce travail de collectage, il y a eu tout un travail de valorisation aussi, auquel j'étais pas du tout formée, mais j'ai été formée sur le tas, qui se faisait à la phonothèque de la MMSH, qui est un lieu qui est assez intéressant, parce qu'il y a plein de...
MMSH, c'est...
Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, ouais. C'est à Aix-en-Provence, au Jas de Bouffan. Je partais dans ce milieu, la phonothèque de la MMSH, qui est un endroit hyper agréable dans lequel on peut écouter des milliards de choses, du chanteur kabyle.
Donc c'est un centre de ressources.
C'est un centre de ressources orales, ouais. Donc tout est enregistré et indexé, un minimum
on
documenté.
On peut retrouver d'ailleurs sur Internet des sons que tu as fait.
On peut retrouver, puis on peut retrouver à l'intérieur d'une base de données. Je sais pas moi, si on met la Saint-Pierre, qui est la fête traditionnelle des pêcheurs, on va tomber direct sur les enquêtes, les numéros d'enquête, mais comme une bibliothèque en fait. Du coup, on peut aller écouter une enquête. Je trouvais que c'était quand même bien que ça ait... Que ça serve après, parce que finalement, je pense qu'il y a plein de personnes qui ont enregistré plein de choses et qui servent à rien, quoi. Donc ça peut permettre à certaines personnes de trouver, même si ça va être un public plutôt universitaire là-dessus. Et après, il y avait une deuxième partie dans la valorisation, donc il y avait une valorisation un peu scientifique, entre guillemets, et une valorisation plus artistique avec la réinterprétation... et la réadaptation par des musiciens, où c'est comme le travail qu'on a fait avec Boris 51, c'est-à-dire partir de collectage pour mixer, et que ça puisse devenir des morceaux. Donc c'est toujours ce truc entre tradition, modernité, mais pas se figer non plus dans le passé, dans ce que c'était, mais aussi pouvoir avancer.
Alors, on m'appelle Boris 51, je suis DJ à Marseille depuis un peu un paquet de temps quand même. Voilà. Donc, je suis un peu, beaucoup, souvent sur la plaine. Sur la plaine, je rencontre en fait le monde entier, quoi. Aussi bien le monde entier de Marseille que le monde entier d'ailleurs. Et dans ce monde entier, il y a tous mes potes de l'Occitanie réunis, dans le Lamparo, dans le Moustawa, pays marseillais, dans plein de musicos, de chanteurs, de DJ qui gravitent autour de ça, quoi. Voilà. J'écoutais un peu tous les collectages que Cécile avait fait. Et à partir de là, l'idée, c'est qu'on m'a dit essayer de mettre des musiques, de faire un truc un peu original ou autre que de présenter du mix brut, quoi. Donc, moi, j'ai essayé de faire simple, quoi. C'est-à-dire, j'ai regroupé un peu des familles comme ça. Donc, il y a un morceau qui s'appelle Fight Club.
Je ressens toujours le bruit du cafard quand je les écrasais le matin sous mes pieds.
Je vais aller en prison. Il y avait des vieux quartiers qui étaient mal famés, ou même trop bien famés. Par exemple, il y avait la rue d'Assidon, la rue Bouterie. Quand on passait là-bas, il fallait faire bien attention et ne pas avoir de chapeau, ou alors le tenir à la main, parce qu'il y avait toutes ces péripaties. Patriticienne, comme on appelle ça, pour pas dire alors je te le chopais le chapeau. Il fallait les suivre à ce moment-là. Et bien entendu, il fallait payer. Si on faisait trop le bagnole, il y en avait un qui était cagassé, c'est tout. Je vais aller en prison.
Bébelle, elle avait un chien qui s'appelait Bosco. Ouais, et nous, on y mettait le feu à Bosco et elle disait il y a le feu chez Bébelle, il y a Bosco qui prend feu.
Je vais aller en prison.
Il y a les chafanaillés, les Grecs, et ils ont mis ta tête à poil. On me dit que je meurs d'une balle. Donc que je me crève de peine, c'est pareil. Et on n'y a jamais rien fait.
Je vais aller en prison.
Comme il y en a qui se sont fait tuer, je ne sais pas. Donc, maintenant, c'est des petites traces de 14 ans qui attaquent avec les revolvers, des pattes de baseball.
Je vais aller en prison.
Mais même les filles, moi, je me rappelle des bandes dans les rues. Oh, mais on était folles. On se piquait avec des aiguilles à tricoter. On se tapait, enfin.
Mais ils se battaient à se tuer, hein. À se tuer.
Je vais aller en prison.
Si on avait voulu les agresser, je vous dirais, ils auraient eu du boulot, oui. Il fallait envoyer la bombe, parce que sinon, ils n'y arrivaient pas, hein.
Et puis, alors même, il y avait beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire, quoi.
J'ai eu le déclic de suite avec un truc blues, un peu l'ambiance... un film américain, quoi, un peu un truc comme ça. Et c'était bien le décalage entre ces vieux papis qui parlent comme ça, la voix tremblante, une chose avec un morceau un peu nerveux derrière, quoi. En fait, l'idée, c'est simple, tous les morceaux que j'ai fait, j'ai pris des. On essaye de trouver un rythme et trouver la boucle musicale qui est bien. Sur les autres morceaux, en fait, c'est des vieux morceaux brésiliens des années 30. C'est pour ça qu'il y a un peu le son 78 tours, un truc comme ça. Et je trouve ça. Ça collait bien, voilà. C'était une première tentative, je pense qu'il y en aura d'autres.
Ce qu'il faut ajouter après, c'est mangerez ce qu'avez agu. Hein. Ça veut dire vous mangerez ce que vous avez apporté, alors ma foi. C'est bon.
Je surveillais ma marmite, c'était 15 à 10h.
Il se faisait le caviar d'esquidade dans une heure d'année.
C'est bon. Ah, c'est sûr que ça, c'était pas la bouillabaisse. Hein.
Oui, c'est peut-être aussi bon.
C'est bon.
C'est bon.
Tu donnes à quelqu'un la bouillabaisse et tu mets à l'autre la bouillabaisse, je me demande. C'est bon.
après on peut revenir les petits pâtés, un peu l'oignon, un peu vos aromates, un peu un petit peu de petit salé dedans. Vous faites revenir ça avec les petits pâtés et quand ça roussit un peu, vous mettez de la sauce tomate et du vin blanc.
C'est bon.
Je mange le poisson congelé. Le poisson frit. Je trouve qu'il y a trop d'épines.
C'est bon.
Surveille ma marmite, tu t'es à 10h.
C'est bon.
Recette de la soupe de moule. Prendre un poireau. En principe, on met plus du vert que du blanc. Tu prends un poireau, tu le coupes en petits morceaux. Tu le fais roussir avec de l'huile d'olive, de l'ail en chemise. Et un peu de tomate. À côté, tu fais ouvrir tes moules dans une poêle couverte. Bien entendu, tu décortiques. Tu gardes l'eau que tu t'as mise pour pas qu'il y ait des algues, tout ça, qui sont accrochées, là, aux moules. Tu les racles bien, tu les nettoies. Une fois qu'elles sont ouvertes, tu mets tes moules dans ce qu'on a préparé avec les poireaux, la sauce. Ton jus de moule qui a rendu l'eau, quand tu les as fait ouvrir, tu le mets dans cette sauce. Tu ajoutes, comme l'eau elle est très salée, l'eau des moules, tu mets de l'eau dedans. D'accord. Tu vois. Après tu mets le safran et tu mets des spaghettis coupés dedans. C'est tout simple.
Voilà. Mais tu laisses les moules avec la coquille.
Ah non, je mets que la bête.
Ah d'accord.
Je les décortique. Oui, d'accord. Une fois qu'elles sont ouvertes, tu lèves la bête. Tu les mets dedans.
Ah ben la soupe aux moules, vous laissez les moules entières. Moi je laisse les moules entières. Hein.
Mais c'est bon, hein. Tu goûtes à mesure, tu mets un peu d'eau, tu goûtes que ce soit pas trop salé quand même. Ah. Tu vois, tu mets un peu le poivre. Pour 5 personnes, moi je prends 2 kilos de moules. D'accord. Pour qu'elle ait un peu quand même. C'est bon.
D'accord.
Voilà, bon appétit.
Si tu veux, le récit populaire marseillais, ce qui est.
Manu Théron.
Si on essaye un peu de le toucher du doigt, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que c'est un récit qui est basé sur l'humour, sur l'exposition violente des contrastes, qui est vraiment peut-être la marque même de la culture populaire marseillaise, et sur la définition d'une fantaisie qui puise ses ressorts dans la folie pure, quoi, dans une espèce de description du monde qui est complètement fantaisiste et qui est dans le dépassement un peu, dans l'espèce de... C'est des choses qu'on peut sentir au bar quand on voit les gens regarder un match, surtout quand on perd, et qu'on peut sentir aussi dans la poésie la plus savante du XIIIe siècle. Cette dimension, elle est présente. Mais dans la culture marseillaise, effectivement, dans la culture populaire marseillaise, l'humour est vraiment basé sur l'exposition violente des contrastes et sur la définition crue du monde. C'est une culture populaire, donc c'est une culture qui ne fait pas de concession à la violence.
Sur les collectages de Cécile, tu as des projets précis musicalement ?
Alors musicalement, je pense que déjà, je vais les intégrer, pour certains, au prochain album du Corps de la Plane. Certains tels quels, d'autres en réinterprétation vocale par le groupe, premièrement. Je vais demander aussi à d'autres musiciens, DJ ou pas, de refaire des propositions artistiques avec. On a un projet avec Nassim pour la diffusion de la pratique collectage, de se servir de ce support-là. Nassim, il fait des ateliers un peu de partout, sur la communauté urbaine marseillaise. Et bien de proposer aussi un savoir-faire, mais aussi du matériau. Et puis lui, il propose aussi ses ateliers, donc de travailler avec lui là-dessus. Alors là, c'est dans le but de transmettre un peu cette pratique et de montrer ce qu'elle est à des gens qui sont DJ ou qui sont en train d'apprendre à faire de la musique électronique ou à enregistrer, de leur dire attention, allez autour de chez vous, vous allez voir tout ce que vous pouvez enregistrer, vous allez délirer. Et puis, dans un futur assez proche, de réorienter aussi les enquêtes sur d'autres types de savoir.
Donc de poursuivre ce travail.
Ah oui, le travail de collectage, maintenant qu'il est enclenché, on ne peut pas l'arrêter. Donc là, ce qu'il y a de bien dans ces musiques, aussi dans la réinterprétation du collectage, c'est qu'on réapprend aussi à écouter. On réapprend à prêter l'oreille et à se dire « Merde, mais on croyait qu'on avait affaire à la mélodie, par exemple, dont je te parlais sur le curé, c'est... Et même dans la façon de faire, il y a déjà plus la note, il y a plus la gamme, il y a plus rien de ce qu'on connaît. Mais ça, il faut l'écouter d'abord. Moi, je l'avais pas perçu. Donc, pendant très longtemps, jusqu'à il y a pas très longtemps, l'ensemble du corpus des musiques populaires de France était exclu de l'académie. C'est-à-dire l'expression musicale, ce que faisaient les gens au quotidien avec la musique, ne relevait pas, pour ces gens-là, ni de l'art, ni de la musique. Il n'y a rien de plus parent, de plus cousin, même de plus frère, que la chanson populaire napolitaine et le bel canto. Et malheureusement, si les musiciens français le savaient, c'est-à-dire quand même on a eu Fauré, on a eu Ravel, on a eu Millot, on a eu tout un tas de gens en France qui se sont intéressés à ce patrimoine populaire, et pas que Canteloube, mais d'autres, et même Pierre Schaeffer. Mais si nos musiciens, nos grands musiciens le savaient, malheureusement, les tenants de l'Académie ont toujours faim de l'ignorer ou de ne pas vouloir l'intégrer à la compréhension de la musique qu'ils pouvaient avoir. Finalement, presque, on en est maintenant, avec les musiques savantes, à se retrouver des points communs, à se rechercher des points communs, et à chercher là où on a pu se séparer, comment, pour se reconstituer un univers commun, parce qu'en face de nous, on a une expression musicale hégémonique, destructrice, profondément destructrice, et centralisée. Et donc, en France, on est vraiment dans une contradiction complète, puisqu'on est on est même dans une position névrotique. C'est-à-dire, on est dans une position où, pour faire perdurer réellement une notion très abstraite, qui est la notion de nation, qui est vraiment une notion abstraite, on n'hésite pas à saccager les identités. Bon, je ne parle pas d'identité, mais les spécificités, ou en tout cas, les caractéristiques de l'ensemble des populations qui habitent un territoire. Et ça se fait au nom de l'idée de nation, ça ne se fait pas au nom de quelconque autre idée. De cette idée de nation découle l'idée de la supériorité du français, par exemple. Une idée vague, mais dont l'Académie est encore aujourd'hui persuadée. De la possibilité du français à énoncer l'abstraction qui ne serait pas la possibilité du Corse, du Breton ou de l'Alsacien. Les premiers témoignages de poésie occitane que sont les tropes, d'où vient le mot tropar, qui a donné trouba et troubadour. Les tropes, ça date du 11e siècle, voilà. 10e, 11e siècle, et les premiers troubadours de la fin du 11e. Donc voilà, on est dans une expression écrite qui est millénaire, et dont il faut savoir que là, il y avait des troubadours marseillais, des grands poètes, etc. Et il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, il y a des poètes en occitan, et que aucun n'est étudié à l'école. C'est quelque chose qui est inconcevable dans aucun autre pays d'Europe.
Est-ce que là, le poids croissant de l'Europe ne va pas faire évoluer justement ce rapport de cet État central à ces langues minoritaires?
Non, malheureusement, non, mais heureusement, non. Si tu veux, moi, ce qui me passionne là-dedans, c'est que le rapport des institutions à ces langues est un rapport complètement affectif, d'où sont exclues toute approche scientifique, toute approche linguistique et toute approche raisonnée. on rentre dans une dimension extrêmement affective et qui met en jeu en France l'idée même de la nation. Il n'y a qu'à voir quand il a été question dans une des lois albanelles qui a été présentée d'admettre les langues minoritaires dans l'article 2 de la Constitution. La première réaction a été celle du Sénat qui a exclu définitivement cela. Pourquoi, en disant, alors ça voudrait dire que les langues minoritaires parlées en France, indigènes, les langues autochtones du sol français minoritaire, seraient au même rang que le français, il n'en est pas question. Voilà. Donc, vraiment, on rentre dans du passionnel. Donc, pourquoi heureusement aussi, pourquoi heureusement l'Europe ne peut rien faire ? C'est parce que l'Europe conçoit l'idée de culture à partir de l'idée d'identité, et c'est une idée que moi je refuse d'énoncer à propos de... Dans l'idée d'identité, il y a l'idée de conformation à un modèle. Et dans l'idée d'identité, il y a l'idée de naissance. Quand on me donne mon identité, c'est quand je nais, quand j'ai ma carte d'identité. Dans cette idée d'identité, il y a aussi le refus de la mouvance, le refus de l'évolution et le refus de l'interpénétration des influences.
Et à travers l'Europe, est-ce que l'influence de modèles comme le modèle espagnol ne pourrait pas justement jouer en France?
Alors, ce qui est vraiment dérangeant dans le modèle espagnol, c'est qu'il reproduit à une échelle inférieure, et là inférieure du point de vue de la dimension géographique, et uniquement celui-là, un modèle national. Grosso modo, le centralisme espagnol reproduit à la dimension d'une communauté autonome, Pays Basque, Galice ou Catalogne. Alors moi, ce qui m'intéresse pas là-dedans, c'est la dimension nationaliste, la dimension patriotique, la dimension chauvine. C'est-à-dire, finalement, ce qui fait le patriotisme, le nationalisme et le chauvinisme d'un peuple, d'une nation entière, de le rapporter à une région. C'est pour ça que je refuse, à l'instar de Félix Castaing, toute idée du régionalisme. L'idée la plus proche du destin des peuples, c'est l'idée communale. Pour ne pas dire communiste, mais bon, on appartient au communal. C'est l'idée qui a fondé l'Europe, c'est la commune. Dans cette perspective-là, je vois effectivement plus qu'un avenir européen, je vois un avenir méditerranéen tout entier, puisque on a beaucoup de choses à apprendre de tous les côtés de la Méditerranée.
Corre, brava, si è lo gatmite, na naslazde, kure kure razpođe, lugat mi da naslazde, gdje mi hrta kaluso, mi sve si kao utraso, kao dansa, randigo digo, kao salta, randigo da, kao dansa, randigo digo, kao salta, randigo da.
Pour terminer cette rencontre autour de la culture occitane, je vous propose d'écouter le documentaire de Cécile Février, un montage réalisé à partir de 3 années de collectage à Marseille.
Je suis partie des métiers parce que c'est le premier montage en absolu que j'ai fait dans ma vie, donc je suis partie de ça, mais bon, j'ai tout refait. Mais à partir des métiers, j'en ai profité pour basculer, parce qu'à un moment, il y a les chanteurs... Elle parle des chanteurs dans les rues, donc je bascule sur un personnage un peu énigmatique à Marseille, qui se baladait dans Marseille, donc c'est assez marrant parce que c'est évidemment c'est les rumeurs un peu vivantes, quoi, donc ils vivent plus, mais t'en as la moitié qui disent que c'était un pauvre miséreux, et puis t'as l'autre moitié qui disent que quand il est mort, il avait deux briques qu'il avait dans le ventre, tu vois, enfin cousues à l'intérieur de lui, enfin le truc, donc ça fait un peu des légendes farfelues, quoi. Et puis je repars encore sur les métiers, enfin je me sers des métiers pour partir sur rajouter un peu, justement piocher d'autres exemples, et donc à partir des poissonnières je pars aussi sur les pêcheurs, en fait.
Et d'une carrière de Marseille et recoucarène de pourri, parce que tout le monde criait, tout le monde cantait et recoucarène de formidable. Alors s'il vous plaît, c'est bien dommage.
Mais ils passaient tous les jours, ces gens?
Tous les jours.
Les brousses du Rove, les poissons.
Ah ouais, ouais, ouais.
Tout le monde criait.
Mais oui, puis quand j'étais dedans, tu voyais pas, j'étais pas toujours à la fenêtre pour voir. Oui. Alors ils criaient, ou alors ils sonnaient aux portes. Et bien entendu, on entendait sonner, on ouvrait. Alors ils se mettaient dans le couloir et puis ils criaient.
À Vierge la Muraille,
il y avait des guiseurs.
À qui au cri d'ailleurs, à moi, il écoutait ou les ciseaux. Et les frômes sortaient, on l'écoutait tout à coup, et la moulava.
Couteau, ciseau, rasoir. L'autre jour, le cousin tante m'a dugué per amoula. Une rode des barriotes est mieux vieille per autre cas. La moulaire sa ou pas faire le métier des pérouliers. L'aïe sa faire la moulaire, l'aïe sa faire son métier. Couteau, ciseau, rasoir.
Il y avait l'estomac, il y avait le tondeur de chien. Aussi maintenant, les gens ils ne le donnent plus comme ça. Ils le mènent pour le faire au toiletté, au magasin, tu vois. Quand ils passaient, on se dit « zing, 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 tondeur de chien !»
Le chien Pacan, c'était le ramasseur de... Il y avait une voiture qui ramassait les chiens. Alors, il avait un fouet qui faisait l'assaut. Et les chiens errants, les attrapaient, les mettaient dans la voiture. Je ne l'ai jamais entendu, mais il y avait un type qui faisait la boyeur. Pour que les chiens répondent. C'était véritable, mais c'était la blague.
Et pour la paix, non? Ah ouais. Et criait pour la paix. « Reste en soi !» Il criait « Père de la paix !»
Alors, la vie, un extra-saire qui passait dans nos villages pour prendre des extras, mais des pères de lapin. Alors, les pères de lapin, dit la nade, comme quoi, quand tu as un lapin, prenant la paix ou la garçaillant contre une muraille. Et contre la muraille, qui après s'écarte, et en encerclant les pères, les portaient à qui au pauvre boucle, qui... Et qui nous donnait au bessage 12 ou 13 ou 3 ou 4, et quelques extras.
Parce que si vous aviez des extras, des machins, des vieux machins, bon, il achetait. Et l'extrasaille, il ramassait les pots de lapin aussi. Alors ça criait dans la rue, extrasaille !
Parti aéré le dimanche matin, ça y tourna par les pères de lapin. Allons, mesdames, nettoyez vos greniers, les vieux chiffons. Les vieux grelots, pour moi tout est bon. Les vieux habits, pouvez-vous me les vendre?
On sent d'un choix aussi, il passait. Ah, un joyeux, il criait. Le vitrier, il passait à l'époque.
Après, alors, à 10 ou vitrier, qui criait dans votre bain.
Il y avait le vitrier qui passait.
Vitrière. Vitrière.
Vitrier. Il montait. Et ils vous remplaçaient une vitre cassée, vous voyez.
Sinon, qu'est-ce qui passait dans la rue? Le marchand de vin,
qui vous porte, qui livrait à chaque maison la bonbonne. Oui, la dame Jeanne,
oui,
oui. De Dosier.
Puis alors, il y avait aussi les stamaires. Les stamaires, eux, stamavo les gamato de fromo, qui étaient les marmites, mais les tiens. Et prenez un museau de ferri, il semblait blanc. Et après, prenez un cave pour faire le couffin. Et stamavo, et raboucavo toutes les traves de marmites de tout ce qui est fromo.
Les brousses de rove.
Les brousses de rove. Alors, le premier coup que mon père a créé dans les brousses de rove, et une porte abominable, jamais de ma vie, heureux que mon père crée de si fort. Après, il me fait gagner. Pigeon, ah, reviens à toi. Oh, putain de l'homme. Crée d'un coup, comme une fois la nuit à carrière. C'est pareil. Et puis, ma foi, elle fait comme tout le monde. Et un jour, comme encore, qui avait eu la banaste, et la banaste radiava le piccion là. Et à quoi par dire, il bagnava toutes les braille. Et là, il y a un homme qui passait au côté de eux, qui a vu que les braille eront bagnados, me fait, oh piccion, qu'est-ce qui t'est arrivé? Que m'est arrivé? Rien de tout. Ah, m'a dit, et le bouillon? Il dit, oh, le bouillon. M'a dit, crois-tu qu'il y a un tien qui t'avait pissé sur la cambo? Il y avait le marchand de brousse du Rove.
Ah, il venait.
Parce qu'elle avait ses paniers aussi. Elle passait les brousses du Rove. Elle avait sa petite clarinette. Tout, 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 tout. Les brousses du Rove.
Les brousses du Rove. Il avait une corne, une jolie corne de brume.
Uh-huh.
Une jolie corne et une corne. Elle, c'était des femmes. C'était des femmes. Arrivé de.
Faisait bénir le troupeau une fois par an.
Un quart.
Un quart.
Mais ils étaient beaucoup superstitieux. Moi je m'en rappelle quoi. Ils n'auraient jamais curé une bergerie un vendredi. Ah ça alors. Tu vois, moi, qui t'a sorti une bourrette le jeudi. Le jeudi, alors ils avaient commencé.
Les brousses du Rove.
Moi, chaque fois que ma mère elle rentrait dans la bergerie, elle se signait.
Ah
c'était superstitieux.
Faisait bénir le troupeau.
Les brousses du Rove. Les garçons, les limaçons.
Lui, il avait la marchande de limaçon. La marchande de limaçon qui criait est-ce les limaçons, ni aille des gros, mais des pichons.
À la garçon, les limaçons, il y en a des gros et des pichons.
Les maçons, ça c'était à 16 ans. Elle criait, alors elle baladait, elle criait, mais il fallait faire vite, parce que nous on habite au 5e. Alors, descendre sur ces limaçons, le temps qu'on ait ramassé le bol et ce qu'il fallait, elle avait déjà fait.
Et comment elle criait, vous vous rappelez?
À la guessant, les limaçons, il y en a des gros et des pichons.
À la guessant, les limaçons, il y en a des gros et des pichons. Vous voyez? Alors, elle est passée, celle-là, avec sa louche et sa grande marmite.
À la guessant, les limaçons.
La laitière, elle nous portait le lait. Tu penses qu'elle montait dans les étages pour nous livrer le lait le matin? Oui. Nous, on restait au troisième étage. Elle montait les trois étages pour nous vendre le lait.
Le lait, ah, il fallait descendre le soir, vite chercher parce qu'il sonnait. Et il fallait descendre chercher son bidon de lait.
Les laitiers avec le cheval, la charrette, les gros bidons. Et puis monter, faisait le porte-à-porte. Après, on descendait. Et pendant la guerre, je me rappelle, on avait droit à une demi de lait. Voilà. Et donc, à ce moment-là, on descendait, mais autrement, le laitier montait tous les étages.
Ah, et puis, il y avait une chose que je me souviens bien, c'était les marchandes de picon. Parce qu'autrefois, au Chartreux, au jardin zoologique, il y avait picon. Alors, picon, pour faire son fameux picon, le picon grenadine que l'on buvait à l'eau de Seltz, eh bien, elle épluchait avec dextérité ses oranges, et toutes ses peaux d'oranges faisaient le picon, mais le reste, on vendait le picon au charreton. Alors on criait les beaux picons, et on les vendait presque rien, puisque la peau avait servi à autre chose. Mais voilà, c'est qu'elle faisait ça en douce, et quelquefois les agents de police arrivaient, faisaient la cerne, chopaient les marchandes avec ses charretons et les mettaient toutes en fourrière. Alors ces pauvres femmes qui ne gagnaient pas beaucoup avec ces charretons de picon, il leur arrivait très souvent qu'elles étaient obligées de laisser tous les picons, et heureuses encore quand elles pouvaient retourner leur charreton vide pour en prendre encore, pour faire aux provisions et revendre des picons.
C'est picons vins.
Les oranges, il y avait les vendeuses ambulantes qui récupéraient ces oranges auxquelles on avait enlevé la peau.
Donc le blanc restait autour du fruit, et ce fruit, il n'était pas jeté.
Non,
il était vendu à un bas prix. Voilà. Et ma mère, qui avait un petit restaurant ouvrier, achetait des picons parce qu'elle pouvait donner deux oranges au dessert au lieu d'une. Et c'était ce qu'on appelait les partisanes.
Ah, oui.
Les partisanes, c'était les revendeuses, quoi. Et alors, moi, je revois encore les pyramides, là, de picons. Ben,
mon père, on lui disait, « Pourquoi pas venir t'y bagner ?» À la mare, il répondait, « Non, il y a un gras de miel, c'est la mare picon. La mare picon. »
Et puis, il y avait des métiers qui n'existaient plus. Maintenant, les plumeuses d'oiseaux.
Non, ça, j'ai pas trop connu.
Ah, ben, moi, j'ai connu. Les plumeuses d'oiseaux se tenaient à la gare à Noailles. Alors là, elles avaient, à ce moment-là, les grives, les ceci et ça. Et elles plumaient les oiseaux, et puis elles les coinçaient sur une canne, la tête dehors, et elles vous vendaient les grives, tous les petits oiseaux que c'était si beau. Ah. Et elles étaient là, alors l'hiver, comme c'était l'hiver, la chaufferette, et elles faisaient ça. Mais et elle gagnait des sous, hein. Attention. Hein. Puis il fallait voir comment ils étaient. Des fois, ils t'en glissaient dans la douzaine, un ou deux qui étaient un peu véreux. Hein.
Passer dans la rue longue, madame, ne perdez pas la culotte, elle criait. Elle vendait des mètres d'élastique pour de bon, ça, alors c'est vrai. Maintenant que tu me l'as dit, ça me revient. Madame, ne perdez pas la culotte, elle vendait des élastiques.
Il y a un marchand, le raccommodeur de faïence et de porcelaine, comme disait la chanson. Je suis le raccommodeur de faïence et de porcelaine. Je répare bien des malheurs. Et puis il y avait des chanteurs aussi qui passaient. Alors, nous, on était à la fenêtre. On attendait quand ils arrivaient. Alors, ils regardaient un peu. Alors, quand ils voyaient qu'il y avait quelqu'un à la fenêtre, ils s'arrêtaient, ils chantaient. Alors, ma mère, elle envoyait deux sous, deux, trois sous. Chacun, il faisait sa journée comme ça en chantant et ramassait ce qu'on lui donnait.
Des chanteurs de rue, oh là là, ça pullulait. Ah oui, c'était un centre à Marseille.
Et Étienne, c'était un chanteur, un vieux marseillais, là, qui chantait dans les rues comme ça, qui était un peu...
Il chantait quoi,
là? Oh, n'importe quoi, un peu de tout. À la fin, il était devenu minable. Il avait une sorte de cage à cri-cri, là, avec un bout de coton dedans, enfin, il est parti en couille, quoi. Un biberine, pardon.
Tiens, non, mais il était pas dans le quartier, il était à Marseille.
Il était partout, lui, non?
Surtout sur la Canebière, sur le centre-ville. Il chantait bien poupou, là. Alors, il chantait bien poupou, là. Et il avait le nez qui coulait, là, toujours plein de morve, là. Bien poupou, là. Il était connu, là.
Non, poupou, là, c'était celui qui chantait.
Bien poupou, là. Bien poupou, là. Bien.
Et samedi soir, après tout. Tu au bain d'ouvrier parisien, dit à sa femme comme un destin, j'ai le café-concert, nous voici, boissons, boissons, je vais me dire à Saint-Sous. Et
c'est une chanson de Vincent Scotto.
Viens poupoule, viens poupoule, viens.
Étienne, c'était Étienne Alfada, mais il était assez intelligent. Un jour, pour la Toussaint, tout le monde allait au cimetière. Un jour, on est allé prendre avec ma femme le tramway à la gare de l'Est. Il y avait Étienne qui chantait. Et pour monter dans le tramway, il fallait faire la queue. Et bien, quand on est arrivé à Saint-Pierre, il y était. Il s'était débrouillé pour...
aller plus vite.
Oui, c'est pas suffisant que ça. Il était un peu simple, mais assez malin pour vivre de ses exploits.
Oui, bien sûr, mais il faisait tout Marseille, alors... il faisait tout Marseille, lui. Tout Marseille, il chantait dans tout Marseille. Alors, chez nous, il venait beaucoup moins souvent, parce que c'était pas... il n'y a pas un monde fou, quoi. Mais on lui donnait le sou, ouais. Moi, dès qu'on l'entendait chanter, ma mère me donnait le sou. Allez, va vite donner le sou à Étienne. Alors, on y mettait le sou. Ah, oui, c'est... ah, oui, c'était des... puis, il était adorable. Hein. Il était très gentil, il chantait. Il faisait que ça. Hein. Non, c'était... puis, on peut le retrouver dans tout Marseille, Étienne.
Hein. Je me rappelle, avant. Et puis, quand il est mort, on y a trouvé deux briques. Il était à l'hôpital de Sainte-Marguerite. Et en nous déshabillant pour le tout, ils ont trouvé dans le corps d'un million. Dans les vêtements cousus. Ouais. On croyait qu'il était malheureux, on était au revoir.
Et quand il est mort, il paraît qu'il était millionnaire à l'époque. Il est mort millionnaire. C'est pas des histoires, ça c'est la réalité.
Les besoins, quand ils sont bien donnés, n'étaient pas si cruels que ça.
Grâce à vos garçons fillettes, car ils pesquent à ce matin, et ils prennent les pesques à la canette, n'impressent pas car ils sont trop fins. Ils moufilent et caffinent maille, n'interdit pas manquer une escaille. Approchez, vous faites attention, vous faillez la distribution. Tournez d'abord la clave à la déserte, parce qu'elle aime des zooms, les musiciens, puisque la grade est bien, les donne à l'aile tout. Les astronomes, les estelles, ma maîtresse, la moustelle.
Alors, il y avait les fronts qui venaient du pays. Parce que les fronts avaient un double nastre, une de chaque carrière. Et là, vous avez de la carrière.
Les poissonnières, tout ça, là, les passaient avec leur panier d'un côté de l'autre, la balance pendue à la ceinture. Paye. Elle s'arrêtait dans le boulevard, elle regardait aux fenêtres. Regardez, je suis belle. Alors on dit pas je suis belle, on dit je suis belle. Elle ne parlait pas bien français, la bonne femme. Alors on disait je suis belle. Et nous toujours, lui disait, on dit pas belle, on dit je suis belle.
Au paye. Ma sardine, bouleg.
Et avant, on entendait parler que... comme ça, c'était nous, la poissonnière, elle passait dans le boulevard. Mm-hmm. Et puis elle nous appelait chacun. Venturi, elle appelait Venturi, c'était des voisins, tout ça. Regarde si elle est belle, ma sardine. Au paye.
Au paye. Vé la belle sardine toute fraîche que la queue et les boulegues encore.
Mais j'ai une photo qui a 70 ans. Elle est là où ma mère vendait les coquillages.
Ah ouais.
Je vais vous la montrer, je l'ai là.
Elle criait en vendant maintenant, hein. Elle criait en vendant.
Oui.
Ça se fait plus maintenant.
Ah, mais c'est beau. Ah ouais.
Et fallait voir, ma mère l'a vendu 50 ans de langoustes là. Et elle a commencé là, mais c'est surtout les oursins.
Mais elle criait quoi, au paye
ou non? Oh pauvre, il disait, allez, venez voir, vous prenez pas des tabatières là, là ils sont pleins, mon beau, venez voir. Oh pauvre, celle-là qui est encore embrouilleuse.
Ouais, c'était un autre monde, hein. C'était un autre monde puisque les gens déjà c'était tous des fils de pêcheurs, de familles de pêcheurs. Maintenant, c'est plus des familles de pêcheurs. C'est tous des nouveaux pêcheurs qui sont venus à la mer, vu qu'il y a eu beaucoup de chômage à terre. Ils sont venus, ils se sont mis à faire le pêcheur.
À l'époque, ici, à Sonnou, il y avait une famille qui a pêché depuis des années, qui était la famille Fache, qui était des provinciaux, enfin, qui sont des provinciaux, puisqu'ils sont aujourd'hui toujours des descendants, hein, et qui ont le cabanon sur le port, là. Puis il y avait d'autres familles de pêcheurs aussi. Bon, il y avait les Janselmes, il y avait les Godins, il y avait... ici, dans les Calanques, il y a pratiquement des pêcheurs provinciaux.
Ils n'étaient pas un peu isolés, ceux-là?
Ben, ils étaient isolés, oui, ils étaient isolés, mais c'est une petite pêche, ils pratiquaient la pêche au trémaille, comme je t'ai dit, comme ceux du Vallon des Offres, tu vois. Et bon, ben, ils commençaient à pêcher à la voile, hein. c'est comme ça qu'on a construit les cabanons d'ailleurs. Ils commençaient à pêcher à la voile et à la rame à l'époque, il n'y avait pas de moteur. Donc en hiver, quand il faisait mauvais temps de Mistral, à Marseille, ils ne pouvaient pas pêcher, puisqu'il y avait du Mistral sans arrêt, donc ils venaient se mettre à l'abri dans les calanques, et c'est comme ça qu'ils ont commencé à construire ces cabanons pour s'abriter. Et après, bon, quand le matin, ils avaient fini de relever les filets, le poisson était amené à Mazargues par les ânes. Ils foutaient tout ça sur le dos des ânes, puis il y avait un mec qui était désigné parmi tous les équipages, parce que dans un port comme Sonnoux, il y a eu jusqu'à 5 patrons pêcheurs, tu vois, 5 ou 6 patrons pêcheurs, donc ça représentait une vingtaine de bonhommes, hein, avec les équipages. Donc il y en avait un qui était désigné tous les matins, et qui partait avec les ânes de tout le monde, hein, et le poisson de tout le monde, et il amenait les ânes au bon maître, hein, par les escortines, franchement les escortines, par le trajet concours, ça dépendait. Du capin, ouais. Dans les escortines, dans le ballon un peu plus haut d'ici, dans les genres de trous, ils s'amusaient à jeter les pierres dedans, et celui qui arrivait à rester la pierre qui est dans le trou. On me disait qu'il jouait à celui qui irait chercher le pain, c'est-à-dire qui amènerait les ânes avec le poisson et qui ramènerait le pain. Celui qui perdrait, il était marron pour faire ça. Et des bons maîtres, après, ils descendaient à Mazargues. Alors, une partie du poisson était vendue par les femmes et les pêcheurs qui habitaient Mazargues, qui réceptionnaient les ânes, qui vendaient le poisson à Mazargues. Une autre partie, bien, ça partait avec le tramway à la criée.
Ma grand-mère, elle a eu 7 enfants, et bien, avec tous ses enfants, elle partait le matin à pied de Mazargues, rue Anjouin. Elle allait à son mieux à pied, par la colline. Elle chargeait dans les paniers le poisson qu'avait pêché son mari. Je ne sais pas si elle en pêchait beaucoup, mais il y a des jours qu'elle devait être assez chargée. Elle allait jusqu'à Castellane à pied, le vent.
Elle avait sur la tête ou sur la nana?
Sur la tête et sur les côtés.
Elle devait l'avoir de partout. Parce que quand elle vendait partout, elle partait après de Castellane, retournait à Mazargues par les campagnes qui étaient là tout le long, au boulevard Michelet, au lieu d'avoir les bâtiments qu'il y a maintenant. Et quand elle avait tout vendu, elle se payait le tram, elle remontait avec le tram.
Voilà, et les goudes, voilà, ouais, on était 22 bateaux ici. Donc c'était vraiment un village de pêcheurs. Mmh. Voilà. 22 bateaux, il y avait environ 3 personnes à bord. Des fois, c'est le père qui avait un fils ou deux fils ou deux étrangers. Bon, mais ça faisait travailler tous les goudes travaillaient à la mer.
Voilà. Et il y avait des femmes qui partaient avec le poisson le vendre?
Oui, les femmes s'occupaient du poisson, bien sûr.
Elle avait ses deux paniers, la balance accrochée à la ceinture. Hein. Ouais. Ma sardine, bouleg. Et pourtant, on avait une de poissonnière qui avait sa petite cabane juste en face de nous, en face de la maison où on était. Eh bien, elle travaillait aussi bien une que l'autre. Hein. Et elle s'arrêtait, elle blaguait toutes les deux.
Il est beau, mon poisson, il est frais. Elle a crié, mais je ne m'en souviens plus de ça.
Ah ben, maintenant, ça se fait plus encore, tout se perd. C'est comme à la Saint-Pierre, ça se perd aussi.
C'était les bateaux d'ici de la Mandrague, prenaient le Saint-Pierre qui était, c'est-à-dire une statue,
ouais,
qui prenait à cette petite église de là.
Ah, c'était pour la Saint-Pierre, pour la, voilà, fête des pêcheurs.
Pour la fête des pêcheurs. Et après, ils offraient.
Il partait en bateau jusqu'au Goude, il a déposé là-bas et il a laissé un an. Et après, l'année d'après, elle partait de là-bas, elle arrivait ici.
Ah, c'est ça beau,
aussi, ça.
Ça
s'est perdu.
Oui.
Avant, quand on faisait faire un bateau neuf, on le faisait bénir, le bateau. Et on allait au Cap Croisette, il y a une croix sur le rocher. Elle est en béton, et dedans, il y a une croix en bois. Alors on allait clouer une petite croix. On allait clouer. Quand le bateau était baigné, avec le curé, tout ça, on allait aux croisettes et on clouait cette petite croix.
Ah ben, quand tu sors du chantier, tu fais un baptême. Comment tu baptises un enfant, pareil. Hein.
Ah ouais.
Ouais. Chalutier, pareil. Les bateaux, tous les bateaux que j'ai connus, moi, dans toutes les familles, ça a toujours été baptisé, en particulier dans la mienne. On n'a jamais mis un bateau à la mer sans la baptiser.
pour bien apprendre le métier, il fallait aller travailler avec un bon patron. Et puis il ne fallait pas en faire qu'un, le patron. Il fallait en faire plusieurs, en étant matelot. Plusieurs patrons pour bien apprendre.
Mon père m'a beaucoup appris. Et puis j'ai appris aussi avec des vieux pêcheurs aussi. Hein. De toute manière, bon, soit on t'apprend, alors c'est ton père, c'est quelqu'un qui t'aime beaucoup pour te passer les secrets, ou soit c'est toi qui les voles.
Alors, regardez les nuages, regardez l'eau quand elle monte. Hein. Il y a beaucoup de choses qui laissent prévoir le temps.
Bon, avant on n'avait pas de météo, la météo c'était le ciel.
Le 19 mars, pour la Saint-Joseph, le 19 mars c'est la Saint-Joseph. En principe, il y a une tempête de Mistral. Voilà. La Saint-Joseph, où ça se fait le jour même, ou deux jours avant, deux jours après, mais il faut que ça se fasse. Hein. Voilà.
Saint-Joseph, on dit la brafounier de Saint-Joseph. C'est le 19 mars.
Nous, on s'est méfié de ça. Après, et ça ne rate pas, c'est vrai que c'est peut-être des conneries, mais ça ne rate pas. Après, il y avait les trois jours de la Vieille. C'est le 1, 2, 3 avril. Après le 19 mars, les trois premiers jours d'avril, il fait une tempête de vent d'est. Voilà. Et les dit-on, des vieux, c'était de dire qu'avril, demandait à mars, prête-moi trois jours et je te ferai voir qui je suis.
Ouais, tiens le coup de la lune aussi. Quand il te fait sur une pleine lune, à nouvelle lune, il te fait un temps, tu te gardes toute la lune qui suit le même temps. Grosso modo, tu vois. Ça, tu as ce qu'on appelle aussi l'œil du vent. À certains moments de la journée, des fois quand le ciel est plus ou moins nuageux, tu vois, dans un nuage, ça te fait comme un arc-en-ciel, tu vois, rond, un petit arc-en-ciel dans un nuage rond. Ça, c'est que dans les deux jours à venir, tu vas avoir un gros coup de vent.
Hey, c'était ça, Marseille.
Avec Gabi Durov, Renat de Septem, Monsieur Voreau, La Plaine, Madame Michon, La Belle de Mai, Odile, Jouc, Germaine de La Plaine, Mamie Cadenel, du Boulevard Audet, Francis Durov, Monique d'Andoune, Aimée Assante de Saint-Jean, Yvette et Robert de Cassis, un couple du Roi d'Espagne, Albert de La Plaine, Gondrona du Vallon des Ors, Madame Fuma de Calelongue, Charlot des Goudes, Pierre de La Madrague, Jo des Chutes-la-Vie, Mimi Poisson du Quai de Rive-Neuve, Monsieur Votero des Goudes, Jean-Claude de Sormy et un groupe de femmes de La Madrague.
Vous venez d'entendre un montage réalisé par Cécile Février, résultat de 3 années de rencontres et de collectes du patrimoine oral occitan en compagnie de nombreux Marseillais. C'est la fin de ce reportage sur l'Occitanie. Si vous souhaitez en savoir plus sur le travail de la compagnie du Lamparo, retrouvez la page Occitanie contemporaine dans Écoute à la carte sur le www.grenouille888.org. Vous êtes toujours sur Radio Grenouille. Bonne écoute. Que volum passet, cuyat da casa.